trouver dans l'Ancien Testament le livre d'un roi et le chapitre 18. Voici un de mes récits préférés de la Bible. Les petits nous quittent, mais c'est un récit qui est intéressant pour les petits comme pour les grands. Parce que Dieu donne un signe. Il ne fait pas signe dans le sens de coucou, c'est un peu jeu de mots, mais il fait signe et démontre sa réalité, sa présence d'une façon spectaculaire. Alors je commence en lisant la parole de Dieu en 1 Roi 18 et je commence au verset 16. Abdias, qui était donc quelqu'un qui craignait Dieu, mais dans le gouvernement d'Achab, étant allé à la rencontre d'Achab, qui est le roi, l'informa de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. Élie est le prophète. Et à peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau que je placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, ils étaient silencieux au début, mais là ils répondirent en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, verset 25, choisissez pour vous l'un des deux taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. On est vers 15 heures de l'après-midi ici. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Il en remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Nous arrêtons là notre lecture. Je voulais vous donner juste quelques images du Mont Carmel. On peut la visiter encore aujourd'hui en Israël. D'un côté, c'est très raide et de l'autre côté, ça monte en douceur. Et du haut du Carmel, on peut regarder dans la vallée de Jizréel, appelée aussi Armageddon. C'est ici où il y a eu plusieurs grandes batailles dans l'histoire entre les pharaons, plus tard même à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une bataille ici. Et c'est ici que, selon Apocalypse, aura lieu le grand et le dernier grand conflit entre l'homme rebelle et Dieu dans cette grande vallée. Et donc, vous voyez, d'un côté, on voit la mer. Aujourd'hui, il y a une ville devant, mais on voit la mer. Et ici, avant le sommet, dans cette plaine, c'est ici où, selon la tradition, s'est passé le récit que nous venons de lire. Il y avait des milliers de personnes, nous savons, qui étaient rassemblées, et probablement ici, sur cette plaine, sur ce mont Carmel. Il nous dit plus tard dans le récit que Élie monta jusqu'au sommet. Donc, il n'était pas au sommet quand ces choses sont arrivées. Voyons encore la beauté. Et j'ai trouvé intéressant que Élie a même sa statue. Et quel événement est-ce que vous croyez qu'ils ont choisi pour montrer Élie? Alors, je vous montre d'un peu plus près. Il a l'épée dans sa main et il a son pied sur un des faux prophètes de Baal. C'est le récit que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre texte? On pourrait l'appeler quand Dieu fait signe du ciel. Dieu, d'une manière extrêmement rare dans l'histoire de ses échanges avec l'homme qu'il a créé, donne du ciel une preuve visible, ou un signe en tout cas visible et tangible de sa réalité et de sa supériorité sur tous les autres dieux et toutes les autres puissances. J'ai lu un professeur chrétien qui a raconté qu'après avoir donné un discours sur Dieu, un étudiant athée s'est approché de lui et lui a demandé « Mais prouve-moi que Dieu existe ». Et le professeur lui a dit, « Mais quel niveau de preuve accepterais-tu? Qu'est-ce que tu accepterais comme preuve ?» Et l'étudiant s'est arrêté et a fini par dire « En fait, j'ai jamais réfléchi à cela. » Et la difficulté en parlant de preuve est que les gens peuvent nier la validité de la preuve. On peut dire « Pour moi, ce n'est pas une preuve. » Je préfère donc parler de signes. Et en guise d'introduction, je crois qu'il est important de dire deux choses par rapport à Dieu et les signes de son existence. Je vais prendre un peu de temps ici et je vais vous demander de trouver en Romains chapitre 1, si vous pouvez. Peut-être un marque-page, quelque chose pour pouvoir revenir. Mais bibliquement, nous savons que Dieu donne à tous des signes de son existence. Et c'est quelque chose qui pourrait vous aider, peut-être en parlant avec un non-croyant, de marquer quels sont ces signes, où est-ce que la Bible en parle. En Romains chapitre 1, je commence au verset 18, dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu ne considère pas que l'homme est neutre, que l'homme soit neutre. Il retient la vérité captive. Il le retient. C'est comme une puissance qui veut sortir et l'homme, il a sa main dessus, il retient. C'est, il ne veut pas connaître. Pourquoi? Sur quelle base peut-on dire que l'homme n'est pas neutre, mais que l'homme, en fait, retient la vérité qui est là? Regardez le verset 19. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est... » Quel est le mot suivant? « Est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. » Mais on se dit, mais qu'est-ce que Dieu a pu faire connaître? Verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu. » Par exemple, sa puissance éternelle, sa divinité, ce sont des perfections invisibles de Dieu. Mais ces choses se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Il y a des choses concernant Dieu, sa divinité, sa puissance qui se voient comme à l'œil nu. On n'a même pas besoin de lunettes. Et on le voit depuis la création du monde. Mais on se dit, mais c'est quoi? C'est où? Regardez le texte. Quand on les considère dans ces ouvrages, les ouvrages de Dieu, la création de Dieu, ils sont donc quoi? Inexcusables. Quand ils se tiennent un jour devant Dieu, ils sont inexcusables car ayant connu Dieu, vous voyez? Ils ont connu Dieu. Dieu considère que chaque homme a connu, d'une certaine façon, les perfections invisibles de Dieu. Alors, une preuve, un signe de son existence, vous pouvez sortir, vous pouvez regarder le ciel. J'ai perdu. J'essaie de... Je m'excuse, on a eu un souci. Peut-être c'est à la fin, on va voir. Ah, pardon. On va y arriver, ça va vous aider, j'espère. Voilà. Je ne vais pas vous refaire la prédication la semaine dernière. Il y a le signe de la création. Il y a le signe de la création, c'est ce que nous venons de voir. Hein, vous pouvez regarder la création, c'est des signes de son existence. Et puis, pour un deuxième signe, regardez en Actes chapitre 14. Il y a une deuxième manière que Dieu se démontre. Pas seulement dans les arbres, dans le ciel, dans la terre, etc. Mais une deuxième façon que Dieu se démontre à tous les hommes. Acte 14, et je commence au verset 14, c'est les apôtres Barnabas et Paul. On veut les adorer ici, dans cette ville. Et donc, ayant appris cela, ils déchirent leurs vêtements, ils se précipitent au milieu de la foule et commencent à prêcher. Et en s'écriant, verset 15, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Vous voyez, ça c'est une évidence de son existence. C'est la création. Le ciel, la terre, la mer. Mais verset 16, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Quoi ? Notez bien le verset 17. « Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté en faisant le bien, en vous dispensant du ciel, quoi ? Qu'est-ce que vous entendez maintenant ? La pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant même vos cœurs de joie. Même les athées, Dieu remplissent parfois leur cœur de joie. Ça, c'est une évidence de son existence. Donc il y a le signe de sa création, mais plus que ça, il nous donne la pluie, il nous donne des saisons, il nous donne la nourriture en abondance, il remplit nos cœurs de joie. On peut parler de ça comme le signe de sa providence. Il pourvoit à nos besoins. Il maintient toutes choses en existence. Jésus dit, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tout le monde reçoit la pluie ce matin, même les plus méchants. Et c'est une grâce de Dieu. Et puis, il y a aussi le signe de son contrôle souverain. Nous pouvons parler ici d'innombrables événements historiques où la seule explication est vraiment la main divine de Dieu qui entre dans l'histoire et qui change la donne. Mais parlons de nous-mêmes. Qui ici est maître de son destin ? Prenons l'exemple de la mort. Qui peut contourner la mort, éviter la mort, contrôler la mort ? Et il y a des exemples remarquables comme Hérode, le Hérode en acte 12, il y en avait plusieurs, mais au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, nous dit acte 12, 21, et assis sur le trône, les harangua publiquement, le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rangé de vers. Et il y a des récits extra-bibliques qui nous disent que c'est exactement aussi ce qui s'est passé. Il y a des morts subites comme ça. Mais tout le monde meurt d'une façon ou d'une autre. Et personne ne peut s'échapper. Dieu contrôle nos vies. Nous avons des handicaps. Dieu contrôle. Nous avons une situation familiale. Dieu contrôle. Ce n'est pas l'homme qui décide ses voies. C'est Dieu qui ordonne nos pas. Et l'exemple suprême est la mort de qui ? De Jésus-Christ. Hein? Pierre dit, ce que vous avez voulu avec des mains impies, Dieu l'a ordonné, l'a prédestiné en avance. Et c'est exactement ce que nous apprenons dans notre dernière question. Comment Dieu est-il relié à toute chose ? Dieu est relié à toute chose par ses, quoi ? Ses œuvres de création, sa providence et sa souveraineté. Vous mémorisez ça, vous avez ça avec vous. Mais beaucoup plus important que ces signes de sa réalité, de sa présence, est la révélation qu'il donne à l'homme. Le christianisme est basé sur une révélation que Dieu donne à l'homme. Si vous avez une Bible, vous avez entre vos mains la parole même de Dieu. C'est un ouvrage surnaturel. Donc la première chose que nous pouvons dire, sans parler de la Bible, ce qui est suprême, c'est que Dieu donne à tous quand même des signes de son existence. Voilà trois. Mais la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Dieu ne satisfait pas les exigences de ceux qui demandent un signe. Vous n'avez pas le droit d'aller et de dire, « Dieu, si tu existes, fais ceci ou fais cela. » Écoutez ce qui s'est passé en Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe. Écoutez, il dit, un signe venant du ciel. Alors nous savons qu'il parlait beaucoup d'Élie. Et il lie aussi, même bibliquement, la venue du Messie. Il est très lié à la venue d'Élie. Et donc, probablement, quand ils disent faire voir un signe venant du ciel, ils pensent à ce qui est arrivé pendant la vie d'Élie. Toi, tu fais l'homme. Fais apparaître le feu du ciel. C'est ce que Jésus l'a fait. Matthieu 16, verset 4, dit qu'il a répondu en disant « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » C'est le mot signe, c'est le même mot signe. « Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Il explique ailleurs que Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans la mer et il serait dans la tombe pendant cette durée de temps. Mais le verset termine en disant ça, « Puis il les quitta et s'en alla. » Il ne fait pas de signe. Jésus ne donne pas sur commande. Mais pour revenir à notre histoire, ce que nous venons de lire, le signe n'est pas demandé. C'est Dieu qui, dans sa condescendance, sa miséricorde, leur donne un signe miraculeux. Et je vous pose une question. Est-ce qu'un signe a une date de péremption? Est-ce qu'elle n'est plus valable? Parce qu'elle est tellement... Il est tellement vieux. Vous avez dans vos mains un récit fiable et historique. Est-ce que le signe, donc, est toujours valable pour nous? Quelle preuve avez-vous que Napoléon a régné en France? Vous dites, bon, il y a des lois, il y a des œuvres d'architecture, il y a des bâtiments, etc. Oui, mais quelqu'un peut dire, ces lois sont vieilles, ces bâtiments sont vieux, je ne les ai pas vus construire. Il me faut un signe dans ma vie que Napoléon ait bien existé. Mais ce serait absurde, non? On accepte la validité des récits historiques. Et le signe que Dieu a donné ce jour-là sur le mont de Carmel est toujours valable de nos jours grâce aux récits fiables, inspirés, sans erreur que vous avez dans vos Bibles. Parlons donc de ce signe. Il est, en réfléchissant, difficile de croire que dans ce pays qui portait le nom, quel nom? Le nom d'Israël. Le nom que Dieu a lui-même donné à Jacob, qui est le fils d'Isaac, qui est le fils d'Abraham. Que dans le pays qui porte le nom d'Israël, nous serions tombés si bas. Si bas que la majorité des citoyens ne sait plus, qui est réellement le Dieu à obéir. Si bas que Dieu a besoin de prouver de nouveau qu'il est le seul vrai Dieu. Avait-il oublié la création? Avait-il oublié le choix d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Tout ce que Dieu avait fait pour Jacob et sa famille en les amenant en Égypte, Moïse et les plaies d'Égypte, le passage par la mer Rouge, les 40 ans dans le désert, tout ce qui s'est passé avec Josué, ils avaient oublié tout ça et maintenant ils ont besoin d'un autre signe? C'est terrible, la nature humaine. On peut prouver, et l'homme a toujours besoin d'une autre preuve. Et de plus, il vivait déjà un signe miraculeux et sans précédent, vraiment. Quel était le signe qu'il vivait? C'est que depuis 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et ceci dans un pays qui avait 2 saisons de pluie par année, ce que Deutéronome appelle la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et là, depuis 3 ans et demi, il n'y a plus une goutte de pluie sur le sol. Et Baal, qui est le dieu de la fécondité, ne pouvait rien faire. Dieu avait verrouillé le ciel et Baal n'y pouvait absolument rien. Alors quel droit ont-il à un autre signe de la part de Dieu? Aucun. Mais Dieu, qui seul peut envoyer la pluie, va d'abord envoyer le feu. Et quand nous lisons une histoire de la Bible comme celle-ci, c'est un peu comme si on regardait une pièce de théâtre. Il faut imaginer l'histoire, il faut l'imaginer dans sa tête. Nous ne sommes pas assis dans une salle de classe comme dans les épîtres matin, c'est plus comme on est dans une salle de classe et l'esprit nous enseigne des vérités. Mais après, c'est comme, il nous met tous, et c'est une sortie scolaire, et on part, et on regarde maintenant ce qui s'est passé dans le monde, ce qui s'est passé dans l'histoire. Et les leçons dans ces histoires ne sont pas aussi évidentes et didactiques que dans les épîtres. Elles sont plus subtiles, mais elles peuvent avoir plus d'impact si on réfléchit bien. Et donc, il est préférable de prendre avec nous les leçons que nous avons apprises en classe, dans les épîtres, de les amener maintenant dans ces récits historiques et regarder ce que Dieu nous démontre dans l'histoire. Nous croyons que la Bible est un tout, c'est un tout, un complet. Et donc, on peut prendre les vérités des épîtres et les regarder, et regarder ces histoires comme des exemples de ce que d'autres parties de la Bible nous enseignent. Et on apprend mieux donc en regardant les acteurs. Il y a vraiment quatre acteurs dans cette histoire. Il y a d'abord le roi Achab. Et puis, il y a 850 prêtres de Baal et d'Astarté. Des gens très dévoués. Et puis, à côté d'eux, il y a des milliers de citoyens. Et eux, quand on leur demande « Pour qui êtes-vous ?», eux, ils restent silencieux. D'accord ? Ils ne sont pas avec les prêtres. Ils ne sont pas avec Élie. Donc, on a le roi, on a les prêtres de Baal, on a la foule assemblée pour voir le dénouement, et nous avons quatrième, le prophète de Dieu. Regardons donc d'abord le roi, Achab, et nous allons considérer trois vérités illustrées par ce roi, et en fait, nous limiter à cela ce matin. Nous allons considérer l'incertitude des premières réactions, la première vérité, l'influence des relations intimes, et l'inefficacité des démonstrations miraculeuses. La première vérité qu'on apprend ailleurs dans la Bible, mais qui est démontrée ici, c'est l'incertitude des premières réactions. Regardez le verset 20. « Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes même à la montagne du Carmel. » Il fait exactement ce que Élie lui avait demandé de faire. Et nous savons que Achab lui-même est présent. Et nous savons aussi, nous verrons plus tard, que sa femme ne l'est pas lorsque tout se passe. Donc il vient lui-même et Achab semble être conciliant. Et juste après avoir mis les prophètes à mort, un événement dont le roi a été témoin, dont il a permis... Élie lui dit, c'est au verset 41, Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et verset 42 nous dit que quoi ? Achab monta pour manger et pour boire. Plus tard, regardez la fin du verset 44. Élie dit, monte, encore au roi, hein, « Monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et puis nous voyons la fin du verset 45, Achab, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte dans son char, il partit pour Jisréel. Trois fois, et lui dit de faire quelque chose, et il le fait. Vous pouvez dire bravo pour le roi. Il obéit au prophète. Et cela arrive encore de nos jours, où à un moment de forte émotion, un rebelle semble s'humilier devant Dieu, semble se conformer même aux exigences de Dieu. Mais si vous avez vécu vous-même ce phénomène, et vous avez vu quelqu'un comme ça, vous savez qu'il ne faut pas se réjouir trop rapidement. Pharaon s'est repenti à plusieurs reprises, vous vous rappelez ? Et puis s'est repenti de ses repentis. Et dans le feu de l'action, il a l'air d'acquiescer, mais Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est très individuel ici. Ceux, c'est au pluriel. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, mais seulement celui au singulier. C'est individu par individu qui se soumet et qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera sauvé. Jésus a dit, qu'on connaît une personne comme on connaît un arbre par ses fruits. Et Jésus donne une parabole de quatre terrains. Vous vous rappelez de cette parabole ? Et dans trois de ces terrains, ça termine sans aucun fruit qui dure. Pourtant, il y a eu de bons commencements parmi certains de ces terrains. Et donc, nous apprenons l'incertitude de ces premières réactions. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, nous explique ce qui se passe quand quelqu'un abandonne la foi qu'il semblait aimer. Il dit, ils sont partis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il y a des gens qui semblent être attachés à Christ, semblent être attachés au peuple de Dieu. Mais à un moment ou à un autre, ils vont quitter et ça démontre qu'ils n'étaient jamais des nôtres. Si nous sommes vraiment en Christ, nous demeurons jusqu'à la fin. Hébreux 3:6, la maison de Dieu, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous glorifions. Quelques versets plus tard dans le même chapitre, il dit sur verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Ce n'est pas dit qu'on perd le salut. Non, le salut est éternel. Mais nous sommes maintenant devenus participants, nous sommes actuellement participants de Christ, si nous demeurons, retenions fermement jusqu'à la fin. C'est-à-dire la réalité actuelle est prouvée en fait par la persévérance jusqu'à la fin dans la foi. Ceux qui sont vraiment en Christ aujourd'hui sont ceux qui vont croire jusqu'au dernier souffle. Et c'est seule la foi qui dure jusqu'au dernier souffle, qui est une foi qui sauve. Vous pouvez lire la suite de la vie d'Achab pour voir que c'est un homme qui n'a pas suivi l'Éternel. Donc pour revenir à notre histoire, une deuxième vérité, enseignée ailleurs dans la Bible, mais illustrée ici dans cette histoire, c'est l'influence des relations intimes. Si seulement Élie était le seul influence dans la vie de ce roi, si seulement il n'y avait que Élie, les choses auraient terminé bien différemment. Et un rebelle veut croire, et il veut faire croire aussi qu'il est indépendant. Non, ça vous arrive? Un rebelle, il veut croire, je suis indépendant, j'ai l'esprit indépendant. Et c'est pour ça qu'il se rebelle, il a l'esprit indépendant, il pense pour lui-même, pas comme les autres. Mais vous savez, dans la plupart des cas, le rebelle n'est pas fort du tout. C'est quelqu'un qui, en fait, sous l'emprise de quelqu'un d'autre, sous l'emprise de ses copains, de ses amis, de son groupe dans lequel il veut être accepté. Et il ne fait que rabâcher les idées qu'il reçoit des autres. Prenez un jeune homme qui se rebelle contre les mœurs de ses parents. C'est très rare qu'il ait inventé lui-même ses idées. Normalement, il va répéter ce qu'il apprend de ses amis, ses copains. Et nous avons commencé la lecture au verset 20. Quel est le premier mot? Quel est le premier mot du verset 20? Vous pouvez le regarder, dites-moi, quel est le premier mot du verset 20? C'est le mot Achab, ou Achab si vous préférez. Et reculez d'un mot et lisez le dernier mot du verset 19. Vous allez trouver le problème. Quel est le dernier mot du verset 19? C'est Jézabel. Achab a une Jézabel dans sa vie et cela change tout. Ça change tout. Et je vous invite à trouver le chapitre 16. 1 Roi 16, verset 31. Notez la première fois qu'on rencontre cette femme. 1 Roi 16, 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, ça c'est le premier roi d'Israël, pays du Nord, qui avait construit des veaux d'or, mais qui avait dit, vous allez adorer l'Éternel. Il disait quand même, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais vous allez les adorer ici devant ces idoles. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Et-Baal, il y a le nom de Baal dans son nom, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Les deux choses vont de pair. Il prend Jézabel comme femme et il va servir Baal. Il a choisi sa femme avant de choisir son Dieu. Et le choix de la femme a déterminé le choix de son Dieu. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont pareils aujourd'hui. Ils choisissent leur femme et en fonction de leur femme, ils vont choisir leur Dieu. Pourquoi ils vont vivre? Elle est peut-être belle, mais c'est une Jézabel. Et donc, il faut la rejeter. Et notez l'influence qu'elle exerce sur Achab et donc sur le royaume. Regardez chapitre 18, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Et lorsque qui extermina les prophètes de l'Éternel? Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Puis, ce qu'Élie dit à Achab, verset 19, 1 roi 18, 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et ainsi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de qui ?» De Jézabel. C'est elle qui pourvoit donc à leurs besoins. Jézabel est donc à l'épicentre de cette réforme gouvernementale qui a pour but d'exterminer l'adoration de Yahvé et de la remplacer par l'adoration de Baal, son dieu de chez elle. Elle tue donc les prophètes de l'Éternel et elle nourrit du trésor public des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté. Donc c'est qui tire les ficelles au palais? C'est qui porte la culotte? Et dans ce domaine, Achab a abdiqué sa responsabilité en tant que roi d'Israël et il a laissé la mainmise de la vie religieuse à Jézabel. C'est un homme qui peut facilement insulter le prophète. Il veut dire, c'est toi qui mets le trouble en Israël. Hein, il y a des hommes comme ça, ils savent parler comme fort. Mais il n'est pas aussi fort qu'il paraît. Si vous lisez 1 Roi 21, l'histoire de la vigne de Naboth, vous laissez cette histoire, vous verrez que Achab cède tout le contrôle à sa femme. Elle va même écrire des lettres en son nom, elle va faire assassiner des hommes justes pour qu'il ait un jardin potager près de chez lui. Mais quand Élie est devant lui, et quand le peuple est en train de crier que, il y a le peuple, l'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu! Ah, et ben, il permet à des centaines de prophètes d'exécuter même. Mais, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Regardez le chapitre 19 et verset 1. 19 et verset 1. Achab rapporta à qui? À Jézabel. C'est pour ça qu'on voit qu'elle n'était pas. Hein. Lui, il était, mais pas elle. Et il revient, il rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel, tout de suite, elle agit. Verset 2. Elle envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors, Achab est roi. Il peut faire tuer les gens. Il y a des rois qui ont fait tuer leurs femmes même. Il peut se laisser guider par Élie. Imaginez s'il aurait continué à chercher et à suivre le conseil du prophète de Dieu. On voit ça dans l'exemple de David. Il avait des prophètes même, d'autres autour de lui, qui le conseillaient. Il était connu comme des conseillers du roi. Mais il revient vers Jézabel. Et le jour après qu'il ait permis à Élie de tuer les prophètes de Baal, il permet à Jézabel de tuer Élie, le prophète de l'Éternel. Et sachez ceci, quand vous rejetez l'autorité que Dieu a placée dans votre vie, vous ne faites que la remplacer par un autre. Vous voulez croire être libre? Je vais me libérer de Dieu, je vais me libérer de mes parents, je vais me libérer de l'Église. Quand vous rejetez l'autorité que Dieu a placée dans votre vie, vous ne faites que la remplacer par une autre autorité qui va dominer sur vous, qui va vous contrôler et qui va vous mener dans plus encore de péché. Achab rejette l'autorité de Dieu. Il rejette donc l'autorité d'Élie, le prophète de Dieu, et se trouve sous l'emprise d'une femme païenne voué à instaurer le culte de Baal comme la seule religion d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que nous pouvons douter de l'influence de relations intimes dans nos vies? Je vous pose la question, mes amis. Quelles sont vos relations intimes? Qui sont vos amis les plus proches? Pasteur du 19e siècle parle de la croissance spirituelle. Il donne des choses, du conseil pour une croissance spirituelle. Et une chose qu'il donne, il dit, essentielle à la croissance dans la grâce est une prudence à l'égard de la compagnie que nous gardons et des amitiés que nous formons. Et il continue, il dit, peut-être rien n'affecte le caractère de l'homme plus que la compagnie qu'il tient. Nous assimilant les manières et le ton de ceux avec qui nous vivons et discutons, et malheureusement, il est beaucoup plus facile de se faire du mal que de se faire du bien. La maladie est infectieuse, mais pas la santé. Or, si une personne qui professe connaître Christ choisit délibérément d'être intime avec ceux qui ne sont pas amis de Dieu et qui s'accrochent au monde, son âme est sûre d'en souffrir. Il est déjà assez difficile de servir le Christ en toutes circonstances dans un monde comme celui-ci, mais il est doublement difficile de le faire si nous sommes les amis des irréfléchis et des impies. Les erreurs d'amitié ou de fiançailles sont la seule raison pour laquelle centaines de personnes ont complètement cessé de grandir en Christ. Et puis il cite de ce verset, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'amitié du monde aussi est inimitié contre Dieu, Jacques 4, verset 4. Il termine en disant, cherchons des amis qui nous stimuleront au sujet de nos prières, de notre lecture de la Bible, de notre emploi du temps, de nos âmes, de notre salut et, d'un monde à, et du monde à venir. Qui peut dire le bien que la parole d'un ami en 16 ans peut faire ou le mal qu'elle peut prévenir ou empêcher? C'est une façon sûre de grandir. La Bible dit en Proverbe que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. C'est très important, surtout quand on est jeune, mais toute notre vie. Si nous voulons marcher dans la voie des justes, il faut refuser de marcher selon le conseil des méchants, de s'arrêter sur la voie des pécheurs et de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Alors attention, ce n'est pas qu'il ne faut pas être l'ami des pécheurs. Jésus était l'ami des pécheurs. Mais il faut éviter de faire d'eux nos amis intimes. Jésus aussi avait ses amis intimes. Et il y avait des temps où il se retirait de la foule pour être avec ses amis. Et même parmi ses 12, il avait 3 qui étaient spécialement intimes. Il a choisi pour être avec lui. Donc nous voyons dans cette histoire, en regardant ce roi, l'incertitude des premières réactions. Quelqu'un peut dire, je suis tout flamme, tout feu, tout flamme, quand on dit pour Dieu. Il faut voir dans la suite la réalité de ces choses. Nous voyons l'influence des relations intimes et finalement nous voyons l'inefficacité des démonstrations miraculeuses. L'inefficacité des démonstrations miraculeuses. Nous avons tendance à croire que les miracles changeraient les cœurs des hommes. D'ailleurs, si seulement on avait des miracles, ça changerait les cœurs des hommes. Mais vous savez, ce n'est pas du tout le cas. Achab avait vu la pluie, enfin le ciel sans pluie pendant 3 ans et demi. Il a vu le feu descendre du ciel et ça n'a pas changé son cœur. Et pour vous montrer cela, je vous invite à trouver Luc 16. C'est notre dernier passage, je vous promets. Mais Luc 16, et Jésus nous raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelle Lazare. Il dit au verset 19, Luc 16, verset 19, qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour qui menait une joyeuse et brillante vie, et un pauvre nommé Lazare qui était couché dans sa porte couvert du cerf, et désireux de se rassasier des miettes même qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lâcher ses ulcères. Le pauvre mourut, et Jésus ne raconte pas ici comme une parabole, hein, mais une histoire vraie. Et le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue. » Lazare était content des miettes qui tombaient de la table, et lui maintenant, il est content de ces gouttes qui tomberaient du doigt de Lazare. Il dit, « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. C'est comme ça que tu l'as voulu. Que Lazare a eu les maux pendant la sienne, et maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui viendraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » On ne peut pas croire à la Bible et nier l'existence de l'enfer, ni des tourments en enfer. Mais écoutez ce qu'il va dire maintenant, verset 27. Le riche dit, « Ah, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Ah, ça serait bien si Lazare allait vers eux. Mais Abraham répondit, verset 29, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Oh, c'est pas très gentil, Abraham. Il va argumenter. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Imaginez, quelqu'un, tout d'un coup, se ressuscite ici. Ah, ça créerait, non, une repentance immédiate. Regardez bien le verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Êtes-vous convaincu de cela? C'est une vérité. Êtes-vous en convaincu? Nous avons la preuve. Qui a fait plus de miracles que Jésus? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Ils l'ont crucifié. Mais on se dit, mais si quelqu'un des morts ressuscité, les hommes se repentira. Qu'est-ce que Jésus a fait 3 jours après sa mort? Il est ressuscité, et les pharisiens et les sadduciens ne pouvaient même pas le nier. Vous lisez en Actes 2, 3 et 4, ils ne nient pas le fait que Jésus soit ressuscité. Mais ils n'ont pas cru quand même. Ne mettez donc pas votre foi dans les démonstrations visuelles de la puissance de Dieu, mais dans la puissance même de Dieu de changer les cœurs. Vous voyez la différence? On ne met pas notre confiance dans les démonstrations visuelles. Ah, pour persuader. Non, on n'a pas besoin de démonstrations visuelles pour persuader. Nous avons besoin de la puissance même de Dieu pour persuader. Dieu doit entrer dans le cœur. Il doit ouvrir le cœur de Lydie. Il doit donner les yeux pour voir les gens qui sont aveuglés par le prince et le diable de ce monde. Il doit régénérer et donner la nouvelle vie aux gens. Donc on ne met pas notre foi dans des démonstrations visuelles, on met notre foi dans celui qui seul peut changer les cœurs. Et tout cela, vous avez dans cette histoire, l'incertitude des premières réactions, l'influence des relations intimes, l'inefficacité des démonstrations miraculeuses démontrées dans cette histoire, et nous avons considéré seulement Achab. Dieu voulant, nous reviendrons. Prions le Seigneur. Nous te remercions, notre Père, que pour ta parole qui est si riche et si belle dans la façon qu'elle est. Elle s'harmonise parfaitement avec elle-même. Les différentes parties de l'Écriture, ces histoires qui illustrent des vérités enseignées ailleurs. Et nous prions qu'il n'y ait pas de cœur rebelle ici pour se détourner de celui qui nous parle du haut des cieux. Car si ceux qui ont reçu des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Donne-nous donc des cœurs dociles, des cœurs humbles, pour revenir à toi, pour faire de toi notre seul Dieu, et pour nous soumettre entièrement, corps, âme et esprit, à toi. À toi la gloire, ô Dieu, au siècle des siècles. Amen.